L'ombre.
Les voix captives.
Les voix captives.
Les voix captives.
Les voix captives. This is rhythm.
Vous êtes bien sur Radio Campus Paris 93.9 FM, il est 17h30 et c'est l'heure de l'émission Ici l'ombre, les voix captives, émission hebdomadaire du Genepi Île-de-France, association étudiante militant pour le décloisonnement des institutions carcérales. Aujourd'hui, nous recevons encore une fois Virginie Bianchi, l'ancienne directrice de l'établissement pénitentiaire de Clairvaux et aujourd'hui avocate.
Merci Virginie Bianchi de venir pour cette deuxième édition des Voix Captives. Bonjour.
Bonjour.
Et donc nous avions fini l'émission sur votre ancienne expérience de directrice à Clairvaux. Est-ce que vous pouvez nous parler du lien entre cette ancienne fonction et ce que vous faites maintenant ?
L'aménagement des peines, pour les longues peines.
Oui. Alors, en tant qu'avocat, moi je ne fais que du pénal et je me suis spécialisée, je dirais tout naturellement, dans l'aménagement des peines. Et en particulier des longues peines, des très longues peines. Et c'est vrai que je pense que si je n'avais pas été personnel de direction d'un établissement pénitentiaire, il est évident que je ne serais pas arrivée là. On est très peu nombreux à pratiquer cette matière-là et à travailler sur ces champs-là.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire vraiment très très peu. C'est-à-dire que vraiment ultra spécialisé et ayant une activité essentiellement tournée vers ça, allez, on est trois. Trois en France. Ensuite, il y a un certain nombre de cabinets pénalistes qui ont compris que c'était intéressant de suivre les gens après qu'ils aient été condamnés. Mais de cabinets réellement spécialisés, nous sommes trois. Enfin, de cabinets d'avocats réellement spécialisés, puisqu'on exerce en individuel, nous sommes effectivement trois. Donc, moi, j'ai choisi cette voie parce que c'est un milieu que je connais, j'aime travailler, parce que, justement, j'aime travailler sur la longue durée, accompagner des gens dans leur parcours et dans ce qui les amènera vers la sortie. Donc, c'est très valorisant, finalement, par rapport au métier d'avocat pénaliste. Les gens qui font du pénal et qui font du pénal classique, malheureusement, il faut quand même être réaliste, la plupart des gens qu'on défend dans le pénal classique sont condamnés, ce qui est forcément toujours mal vécu par l'avocat. Quand on fait comme moi de l'aménagement de peine longue peine, on a quand même le sentiment que l'immense majorité, et si possible tous les gens qu'on est amené à défendre dans ce cadre-là, vont sortir un jour. Et c'est quelque chose de très enthousiasmant de ce fait, parce que on va vers le positif. On va vers l'après, on va vers la sortie, on va vers la liberté. Donc c'est vrai que sans ce que j'ai fait avant, aujourd'hui, je pense que je n'exercerai pas sur ce champ-là et que je n'exercerai pas de la même manière.
Et donc vous intervenez dans différentes prisons sur le sol ou vous êtes plus attaché à une région ?
Non, pas du tout. Moi, j'interviens partout. J'interviens partout où les gens m'appellent. Donc là, actuellement, j'interviens de Bapaume à Casabianda et de Lorient à Toul. Donc, et après, c'est Poissy, Réau, Mozac, Moulins et bien d'autres. Voilà.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu commences à travailler avec tes clients sur un aménagement de peine, comment ça se passe, comment ils doivent démarrer les procédures ?
Alors, moi j'interviens surtout sur des longues peines. Je n'ai que de manière minoritaire de courtes peines, parce que les gens condamnés à de courtes peines d'emprisonnement souvent n'ont pas le réflexe de faire appel à l'avocat. Et donc ils montent leur projet avec le conseiller d'insertion et de probation et sont ensuite soit assistés de l'avocat de permanence, soit pas assistés du tout quand ils comparaissent devant le juge d'application des peines. Ce sont de toute façon, en tout état de cause, des projets plus simples, puisque ce qui est requis pour pouvoir sortir quand on a pris une courte peine n'est pas de même nature que les garanties qu'on exigera quand on est condamné à une longue peine. Donc, moi, j'interviens un peu sur ce champ-là. C'est pas du mépris, c'est pas ça. C'est que ça se fait pas. C'est assez rare. Sur les longues peines, de plus en plus, les gens font appel à moi, finalement, très peu de temps après leur condamnation. Quand je dis très peu de temps, c'est très relatif. Mais en tout cas, souvent bien avant de pouvoir envisager de sortir. Parce que un aménagement de peine pour un condamné à une longue peine, ça se prépare sur des années. Ça nécessite à la fois de travailler en coopération avec l'administration pénitentiaire, en particulier avec les conseillers d'insertion et de probation, mais également avec les directions des établissements pénitentiaires, parce que mille et une choses vont permettre qu'une personne détenue puisse sortir quand elle est condamnée à une longue peine. Ça va être d'abord d'être, entre guillemets, dans le bon établissement. C'est quoi un bon établissement ? C'est un établissement dans lequel on va avoir des conditions de détention convenables, ça va de soi, hein. Je veux dire, c'est un prérequis évident, mais surtout dans le cadre de sa demande d'aménagement, ça va être un établissement où il y aura éventuellement la formation qui fait que on va pouvoir ensuite déboucher sur un emploi, sur une proposition d'emploi, sur un projet de sortie. Ça va être l'établissement aussi très important qui va permettre de maintenir ses liens familiaux, son tissu social, et qui va permettre de, justement d'envisager la sortie dans de bonnes conditions. Il y a plein de choses qui font que un établissement sera adapté à telle ou telle personne. Et ensuite, il y a le type d'établissement. Selon qu'on sera en maison centrale ou en centre de détention, il est bien évident que ce ne sera pas la même chose. La maison centrale est orientée vers la sécurité, le centre de détention vers la réinsertion. Passer de l'un à l'autre pour une personne détenue, c'est aussi la démonstration pour le juge de l'application des peines qui aura à statuer sur sa sortie, que la personne a évolué, qu'elle a changé, que l'administration a un autre regard sur elle. Donc c'est aussi accompagner les gens, éventuellement, vers le choix d'établissements qui seront adéquats. Ensuite, ce sera toujours en lien avec le conseiller d'insertion et de probation, la recherche éventuellement de structures d'hébergement, de structures de projet, parce que les gens n'ont pas forcément de projet et qu'il va falloir les orienter et que ce ne sera pas évident pour eux, après une longue peine, d'accéder immédiatement à l'emploi. Donc tout ça, c'est un travail qui se fait sur des années. Je suis actuellement des gens dont la période de sûreté, donc le moment où ils vont pouvoir demander quelque chose, c'est 2021-2022. Donc ça veut dire que on est parti bien avant.
Et est-ce que tu peux nous parler un peu des différents profils que tu suis ? Quelles sont les possibilités de projets que l'on peut mettre ? Est-ce que le choix est conditionné par des cases ou des listes ? Ou finalement la possibilité que de la personne de trouver un métier ou en tout cas une activité qui l'intéresse est possible ? Est-ce que les...
Mais d'abord, comment ils te connaissent ?
Ah, bah c'est Radio Prison. Non, mais c'est... En fait, mon nom circule en détention parce que, comme le nom des quelques confrères, je pense à Delphine Boisel, à Étienne Noël, qui interviennent sur ce champ aussi, nos noms circulent parce que finalement, les gens qui s'intéressent et qui travaillent sur le champ des longues peines sont peu nombreux. Donc, c'est le bouche à oreille. C'est aussi, de temps en temps, une intervention dans une émission comme la vôtre qui peut être écoutée par des personnes détenues ou par des familles. C'est des fois des familles qui me contactent. C'est aussi des Google, c'est un truc absolument extraordinaire. Tapez mon nom, tapez avocat, et puis hop, il y aura l'intégralité de ce que j'ai fait depuis plusieurs années. Il n'y a même pas besoin de fichier de police, c'est formidable. Et donc voilà, c'est comme ça que les gens me connaissent. Et c'est vrai que le monde des longues peines, c'est peu de gens finalement, c'est peu de détenus. D'ailleurs, c'est intéressant parce que beaucoup de ceux qui me contactent me disent « je vous ai connu par un tel » ou « j'ai croisé dans ma détention machin qui m'avait parlé de vous, c'était il y a 5 ans » et là je me dis que je vais avoir besoin, c'est le moment pour moi de me lancer dans un projet. Donc c'est comme ça qu'ils me connaissent.
Quand vous dites que c'est une population restreinte de la population carcérale, c'est-à-dire ?
Oh, c'est vraiment très peu, parce que si on prend les maisons centrales, qui sont quand même les lieux où j'interviens le plus, où c'est quelques centaines ou quelques milliers de personnes. Enfin, ouais, c'est vraiment, c'est pouilla par rapport à l'ensemble de la population pénale. Hein. Mmh. Donc, c'est un peu toujours les mêmes.
Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les profils, les formations qui sont proposées dans le cadre de, je veux dire, est-ce que vraiment la personne peut constituer un projet avec quel... Comment le projet se constitue, disons, le projet de sortie, d'aménagement ? Est-ce qu'il faut d'abord avoir des permissions ? Comment ça se passe, tout ça ?
Alors oui, on peut difficilement imaginer de laisser sortir quelqu'un, surtout après 20 ou 25 ans, sans qu'il y ait eu de permission avant. Ça, c'est un prérequis évident, et je ne connais aucun juge d'application des peines qui laissera sortir quelqu'un comme ça, de manière sèche. Il faut avant que les gens puissent sortir. Soit pour voir leur famille, soit pour voir leur éventuel employeur. Pour ce qui est de la nature des projets, je dirais que tout est possible. C'est vraiment la place à l'imagination. L'important, c'est que ce projet corresponde à la personne. Comme me disait une juge d'application des peines à qui j'écrivais un petit mot à propos d'un de mes gars cette semaine, elle me disait, peu importe la modalité, c'est pour une permission de sortir, peu importe la modalité, pourvu qu'il y adhère. Et en fait, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de proposer ce qui correspondra le mieux à la personne. Peu importe que ce soit original, peu importe que ce soit que ça soit jamais fait, peu importe. Je crois que vraiment, on doit réfléchir à ce qui correspondra à la personne. Donc ça veut dire, d'où l'intérêt, effectivement, de suivre les gens sur des années, c'est qu'on finit par bien se connaître et par voir si l'investissement de la personne dans le projet qu'elle envisage, qu'elle propose, d'une part, est réaliste et d'autre part, est possible et comment il va se construire. Donc, un truc, je vous prends un exemple. Un type condamné à une longue peine, enfin longue peine, 17 ans, longue peine, me contacte peu de temps après avoir été condamné, sur suggestion de son avocat. Oui, sur comment les gens me connaissent, c'est aussi d'autres avocats qui me les envoient, parce qu'justement, ils ne font pas ce type de choses. Donc, son avocat me contacte, est-ce que tu veux bien prendre le dossier de machin, voilà ce qu'il a fait, voilà où on en est. Il vient de sortir du CNE, donc du Centre National d'Évaluation, qui est situé soit à Fresnes, soit à Réau, soit à Sequedin, à côté de Lille, et qui fait que quand les gens sont condamnés à des peines supérieures à 10 ans, ils passent en évaluation dans ces centres nationaux d'évaluation.
Pendant 3 semaines ?
6 semaines. Six semaines. C'est situé dans des établissements pénitentiaires, et c'est une structure pénitentiaire qui permet ensuite de les orienter vers l'établissement le plus adapté. Donc, juste après ça, le type me contacte et avec une possibilité de sortir seulement, c'était il y a 4 ou 5 ans, non, 4 ans, si tout va bien, il va sortir l'année prochaine. Donc, il anticipe. Ça veut dire qu'on a réfléchi à son lieu d'affectation. On n'a pas obtenu tout à fait ce qu'il souhaitait, mais pas trop loin. Il souhaitait rester en région parisienne, ok. Il est effectivement en région parisienne. Deuxième étape, il était DPS, donc détenu particulièrement signalé. L'objectif a été de faire lever cette qualification de DPS parce qu'elle le pénalisait, parce que ça veut dire qu'il était obligatoirement affecté en maison centrale, parce que du coup ça restreignait ses possibilités. Donc c'était pas évident.
Nous allons revenir sur la notion de DPS, mais avant nous allons faire une petite pause musicale.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre
des députés. On avait le dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Donc vous écoutez bien l'émission Ici l'ombre des les voix captives, 4 sur Radio Campus 93.9. Nous reprenons l'entretien avec Virginie Bianchi. Donc Virginie, tu parlais un peu du statut de DPS et de l'importance qu'il avait d'être en tout cas levé pour qu'un aménagement de longue peine puisse aboutir.
Oui, ça fait partie des choses qui vont favoriser l'aménagement de peine, puisque lorsqu'on est classé DPS pour un détenu, ça signifie qu'on ne peut être affecté que dans certains types d'établissements et que nécessairement le regard qu'aura le magistrat sur vous, parce que si vous êtes classé DPS et que vous êtes considéré comme dangereux, ne sera pas le même. Donc arriver à obtenir la levée de cette inscription permet aussi de montrer que l'administration considère que la personne a évolué. Donc ça, ça fait partie du parcours.
C'est facile
Non. Non, il y a plusieurs possibilités. Soit effectivement, on est soutenu par le chef d'établissement, par le service d'insertion et de probation. Enfin, le dossier est vraiment bon et on est vraiment soutenu par l'administration au niveau local. Et auquel cas, au niveau de l'administration centrale, on a une chance de le faire lever sans contentieux particulier. Soit ça se conteste devant le tribunal administratif. Donc, c'est les deux possibilités. Donc, pour ce garçon que j'avais pris en charge, on a obtenu une première affectation en région parisienne, c'est ce qu'il souhaitait. Ensuite, la levée de son DPS. Donc, du coup, son affectation au centre de détention. Ça a mis à peu près 2 ans. Et ensuite, on a réfléchi à son projet. C'est quelqu'un qui a monté son projet. Enfin, ça lui correspond, c'est son souhait, c'est ses compétences. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre en musique. Ça a été ensuite la première permission qui est intervenue l'année dernière, permission d'une journée dans le cadre de l'insertion professionnelle. Et puis ça a été une deuxième permission là au mois de janvier de 2 jours. Et puis
c'est l'artiste ?
Oui, c'est un artiste. Absolument. C'est un artiste. Mais j'ai beaucoup de personnes dont je m'occupe ont des noms artistiques. J'ai vraiment beaucoup de chance. Je trouve que...
Quels arts ?
Alors, il est artiste multiforme. Il est peintre essentiellement, mais il travaille également la céramique et la sculpture. Et c'est quelqu'un qui est très avide d'acquérir de nouvelles techniques. Et donc, qui va présenter, dans le cadre de son projet de sortie, un projet en tant qu'artiste. Ce qui est quand même extrêmement original. Qui pourrait imaginer ça? Et qui correspond vraiment à son évolution personnelle, et qui est validé à la fois par l'administration pénitentiaire, mais également par les magistrats qui vont le laisser sortir dans ce cadre-là, en permission de sortir. Ensuite, permission de sortir, dépôt de la demande d'aménagement de peine. Passage au CNE une deuxième fois, donc Centre National d'Évaluation, mais là pour évaluer son projet, sa dangerosité potentielle dans le cadre de l'aménagement. Et puis ensuite, d'ici quelques mois, passage devant le tribunal d'application des peines qui décidera de sa sortie ou pas. D'ici là, d'autres permissions vont avoir lieu qui vont lui permettre de finaliser son projet, qui vont lui permettre également de faire une demande de permission familiale. Enfin, donc c'est vraiment un processus long qui dure, entre 2, 4, 5, 6, 7 ans. Ça dépend des gens. Et puis, ensuite, c'est la sortie.
Juste avant de parler de la sortie, excuse-moi, est-ce que tu constates des différences géographiques sur l'aménagement des peines, à savoir, est-ce que finalement l'aménagement pour les longues peines est le même sur le territoire français? Quelles difficultés il y a sur la mise en œuvre des aménagements pour longues peines? Je pense à l'Outre-mer, par exemple, ou
Alors c'est vrai que selon le, d'où l'intérêt aussi de réfléchir à l'affectation et à l'orientation des gens dans les établissements, c'est que selon qu'on est à tel ou tel endroit, ben, ce ne sera pas tout à fait la même chose. Sortir de la maison centrale de Clairvaux n'est pas la même chose que de sortir du centre de détention de Casabianda, qui est un centre ouvert, sans mur, avec une vocation de réinsertion qui est vraiment très importante. Donc ce ne sera pas la même chose. Autre difficulté pour les détenus longue peine, depuis des lois récentes qui ont complexifié le système, depuis 2011, énormément de personnes condamnées à 10, plus de 10 ou plus de 15 ans selon le type d'infraction doivent passer par le Centre national d'évaluation lorsqu'ils font une demande d'aménagement de peine. Ces centres nationaux d'évaluation, je rappelle, ils sont situés soit en région parisienne, soit dans le nord de la France. Quand on est détenu à Rémire-Montjoly en Guyane, quand on est détenu aux Antilles, quand on est détenu à La Réunion, quand on est détenu en Polynésie, ça veut dire que s'ajoute à la difficulté de monter un projet le fait de devoir venir en métropole 6 semaines, plus les délais de route, etc., etc. Ce qui fait que beaucoup de gens renoncent en fait en Outre-mer.
C'est traumatisant de passer par le CNE.
C'est un gros stress. C'est déjà un gros stress pour les gens qui sont sur le territoire national, enfin sur le territoire métropolitain, parce que ça va être 6 semaines où on va être passé au crible. C'est une centrifugeuse, hein, le CNE. Mmh. On va vraiment vous examiner sous toutes les coutures. Comme le disait l'ami d'un de mes clients, au CNE, même les araignées vous observent. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Donc, oui, c'est un instant très stressant. Si en plus on est totalement déraciné par rapport à son environnement habituel, parce que du coup on n'aura pas de parloir, parce que du coup on n'aura pas de lien facile, parce qu'on pourra téléphoner mais que ça coûtera horriblement cher. C'est une angoisse telle pour un certain nombre qu'ils renoncent à aller au CNE. Et donc renoncer à aller au CNE quand on est dans le cadre légal qui impose le CNE pour pouvoir sortir, ça veut dire renoncer à tout aménagement de peine.
La dernière étape de l'aménagement des longues peines, c'est la sortie. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont toi, en tant qu'avocate, tu t'occupes de la sortie ou de l'étape de sortie de tes clients ?
Alors, quand mes clients sont admis à une mesure d'aménagement de peine, je leur propose de continuer à les suivre. Parce qu'un aménagement de peine, ça s'aménage. C'est vivant. On va sortir sur un projet d'habiter à tel endroit pour exercer tel métier. Et puis, on va avoir une opportunité professionnelle 2 ans après, où on va rencontrer la femme de sa vie et on va décider de prendre un logement plus grand et puis de vivre avec elle. Tout un tas de raisons vont faire que, ou bien on va, sur des choses plus minimes, changer totalement d'horaire. On était ouvrier en 3-8 et puis on va avoir un poste plus stable avec des horaires de fonctionnaire. Voilà. Donc, tout ça va nécessiter des aménagements, de l'aménagement. Que la personne ex-détenue et maintenant en aménagement va pouvoir effectuer avec le CIP qui le suit puisqu'il continuera à être suivi par un personnel d'insertion de probation à l'extérieur, ou bien il va pouvoir souhaiter que je continue à l'accompagner dans ses démarches parce que c'est sécurisant quelque part à la fois pour cette personne, mais également pour les institutions auxquelles il a affaire, donc le conseiller d'insertion de probation et le juge, qui quelque part vont avoir un professionnel en face d'eux.
Et garantissez la
démarche. Je garantis la démarche, en fait. Et c'est vrai que je le vis régulièrement quand je dis à un magistrat, je vais continuer à le suivre, je sens bien que ça rassure. Ça rassure. Parce que ça fait quelque part ça démontre bien que la personne est effectivement dans une démarche positive et qu'elle a envie qu'on l'aide et qu'on continue à l'aider et à l'accompagner dans cette démarche. Donc ça veut dire que je demande un rendez-vous au juge d'application des peines qui va désormais suivre mon client en milieu libre. Je demande un rendez-vous à son conseiller ou à sa conseillère d'insertion et de probation. Je les rencontre, ils ont mes coordonnées, on échange et je leur demande de faire part de toute difficulté. Et quand mon client a une demande à faire, alors si c'est un truc très minime, je valide ce qu'il demande, parce qu'il ne faut pas que ça soit irréaliste non plus, et je lui demande de présenter lui-même. Si c'est un peu plus complexe, c'est moi qui fais la démarche. Mmh. Mais c'est un suivi qui peut durer des années. Y a des gens que j'ai suivis pendant des années avant qu'ils ne sortent et que je vais continuer à suivre pendant des années. C'est des histoires longues.
Et ça marche, ce suivi ?
Ouais. Oui. Ça fait 8 ans que je suis avocat. Et j'ai une seule personne qui a été réincarcérée. C'est peu. C'est très peu. C'est un bon taux, je trouve. C'est plutôt, ça démontre bien que quand on aide les gens à sortir, quand on les soutient dans leur dynamique, quand ensuite on les suit, ça marche vraiment.
Merci Virginie.
Je t'en prie.
Merci.
This is rhythm.
Si vous êtes détenu ou proche d'une personne détenue, n'hésitez pas à nous adresser vos messages et ou vos dédicaces musicales à soit par courrier à la Maison des Initiatives étudiantes à l'attention du Génépi, 50 rue des Tournelles, 75003 Paris, ou alors par mail à icilombre1314@genepi.fr ou bien encore sur notre page Facebook Ici l'Ombre, ou enfin par téléphone au 06 87 43 87 91, 06 87 43 87 91. Attention, trois conditions, pas de message codé, pas de nom de famille et pas de référence au passé pénal. Vous écoutiez bien l'émission du Génépi de France, Ici l'Ombre, les voix captives, sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Tout de suite, retrouvez L'œil à l'écoute, une émission animée par une association qui promeut la création sonore sur les ondes. Bonne fin de week-end et on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Campus Paris 93.9 FM. D'ici là, suivez-nous sur les ondes et ne restez pas dans l'ombre. Let the good shine.